Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en. Nous sommes vendredi. Dans 30 minutes, la libre antenne, vous connaissez le principe. Vous nous contactez, vous vous exprimez sur l'actualité de votre choix pour vous donner un peu une idée des réactions que nous recevons. Vous êtes nombreux à souhaiter commenter la mise en examen de l'opposant tchadien Succès Masra. Des réactions également sur la RDC après la décision hier soir des sénateurs de lever l'immunité de l'ex-président Joseph Kabila. Là, je vois que les propos du premier ministre sénégalais Ousmane Sonko sur la gestion des crises politiques par la CEDEAO ne vous laissent pas indifférent. Vous avez été plusieurs centaines hier, près d'un millier d'ailleurs, à nous envoyer des commentaires. On prolongera le débat si on a le temps tout à l'heure. En tout cas, on nous interpelle aussi sur la grève des enseignants au Niger, sur la Guinée, un an jour pour jour après la fermeture de plusieurs médias privés. Les sujets ne manquent pas. La libre antenne, c'est dans 30 minutes. 33 9 693 693 93-70. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et plusieurs d'entre vous nous posent des questions ce matin après la condamnation de l'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. Bonjour Achille Omar.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Merci de nous écouter à Lubumbashi.
Oui, merci. Ravi de vous retrouver de nouveau sur la RFI.
Oui, bah je ne suis pas là. Enfin, je m'absente de temps en temps, mais je suis là quand même la majorité du temps. Achille Omar, quelles sont vos questions? On vous écoute.
Oui, Juan. La Cour constitutionnelle de mon pays a condamné Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés pour détournement des fonds. Sur quoi se basent les avocats de la défense pour dénoncer un procès politique?
Oui, Matata Ponyo, reconnu coupable d'avoir détourné plus de 245 millions de dollars de deniers publics destinés à plusieurs projets, des projets qui n'ont d'ailleurs jamais abouti. Bonjour Patient Ligaudy.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. Expliquez-nous ce que reprochent les avocats de Matata Ponyo.
Il faut déjà une précision importante sur le plan juridique. Les faits reprochés à Matata Ponyo sont bien des natures pénales. Mais pour ses avocats, la décision de la Cour constitutionnelle est injuste. Ils parlent même d'un arrêt inique, déconnecté du procès. Et pourquoi? Parce que selon eux, la Cour n'aurait jamais dû revenir sur sa propre jurisprudence. On rappelle qu'en 2021, elle s'était déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre et les dossiers avaient été alors transmis à la Cour de cassation. Mais à la surprise générale, cette dernière a renvoyé la question à la Cour constitutionnelle qui, cette fois, a changé d'avis et s'est déclarée compétente.
Autre. Et un autre point qui est important, et vous alliez, j'imagine, aborder maintenant, c'est le point sur l'immunité de Matata Ponyo, parce qu'il est député et à ce titre, il bénéficie d'une immunité.
Exactement. D'après son avocat, cette immunité n'a pas été levée dans les règles et l'Assemblée nationale avait, de son côté, déjà pris position sur cette question. Enfin, Matata Ponyo lui-même voit derrière cette affaire des motivations politiques. Il affirme que ce dossier revient régulièrement chaque fois qu'il refuse de rejoindre la majorité présidentielle. On sait que le président avait annoncé, il a fait des consultations et il veut avoir un gouvernement d'union nationale et il pense que parce qu'il aurait refusé de participer à ces consultations, donc il est poursuivi. Pour lui, c'est une forme de pression, surtout en cette période des négociations autour de cet éventuel gouvernement d'union nationale.
Achille Omar, vous avez une dernière question.
Oui, la seconde question. Matata Ponyo bénéficie encore de son immunité de député. Est-ce que sa peine peut être appliquée? Où doit-on attendre la fin de son mandat?
Ouais, on revient toujours à ce sujet, hein, Patient Ligaudy. On voit bien que le sujet de l'immunité de Matata Ponyo divise, il ne fait pas l'unanimité.
Il faut dire que c'est l'un des points qui crée les plus de débats. Plusieurs députés ont pris la parole d'ailleurs à l'Assemblée nationale pour dire que la Cour constitutionnelle n'a pas respecté l'article 107 de la Constitution qui protège les élus. Ils demandent même une surséance, c'est-à-dire une suspension de l'exécution de la décision. Mais la Cour, elle, ne voit pas les choses de la même manière. Elle considère que les poursuites ont commencé avant même que Matata ne soit élu député. Donc, selon les juges, l'immunité ne s'applique pas ici car elle protège la fonction et non la personne. Et résultat, pour la Cour, la condamnation est légale et doit être appliquée. Mais attention, des juristes comme d'ailleurs le professeur Grace Mouawa confirment, la Cour est allée au bout du processus. L'arrêt étant prononcé, la peine devra être purgée, dit-elle.
Achille Omar, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan, merci à M. Passé et à vous aussi.
Et merci à vous de votre fidélité. Bonne journée à Lubumbashi. Jeannot nous rejoint toujours sur le dossier Matata Ponyo. Bonjour Jeannot.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, la Radio Mondiale.
À Kananga, dans le Kasaï central. On vous écoute avec passion, Ligodi.
Merci Juan. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo va avoir ce bien confisqué au prorata de l'argent détourné. Qu'adviendra-t-il si ce bien ne vaut pas le 240 millions détournés ?
Ah, passion Ligodi.
Ah, belle question. Il faut bien comprendre que la confiscation des biens, ce n'est pas un remboursement. Déjà, ça, c'est en fait, c'est d'abord une sanction pénale. C'est ce que rappelle Maître Grace Mouawa, professeur de droit à Kinshasa. En clair, les biens saisis sont considérés comme ayant été acquis grâce à l'argent détourné. Même s'ils ne valent pas 285 millions, cela ne change rien et ce n'est pas une opération comptable comme on peut le retrouver ailleurs, c'est une punition. La peine de prison, elle, reste valable et sera exécutée. Peu importe le montant récupéré, ce sera au ministère public de veiller à son application et les biens confisqués, ils deviennent propriété de l'État qui décidera de leur usage. C'est donc une mesure punitive, pas une compensation financière.
Voilà, réponse précise de Patient Ligodi. Jeannot, bonne journée à Kananga. Merci de votre fidélité. Merci. Patient, bonne journée.
Bonne journée.
À très vite. Merci. Journaliste au service Afrique de RFI. 10h17 à Paris, 8h17 en temps universel. D'autres questions à la rédaction de RFI. Chkoulolo, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
À Niamey, au Niger, vous nous suivez notamment sur WhatsApp.
Oui.
Vous nous envoyez les questions via le réseau WhatsApp. Des questions sur le Mali ?
Oui. J'ai appris sur RFI qu'au Mali, plusieurs personnalités ont signé une tribune qui prône la démocratie et dénonce le gouvernement de transition. Que certaines des personnes qui ont signé cette tribune ont-elles un projet politique ?
Ah, bonne question. Tribune diffusée mercredi pour, je cite, « la préservation de la République, la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ». Bonjour David Bachet.
Bonjour Juan.
Journaliste, bonjour, pardon, oui, vous avez raison de saluer Chkoulolo. Journaliste au service Afrique de RFI, David Bachet, qui sont les signataires de cette tribune ?
Alors, qui sont-ils ? Ils sont 18 déjà pour commencer. Il y en avait 16 initialement, mais le texte reste ouvert à signature, donc il y en aura même peut-être encore davantage. Alors dans l'ensemble, ce ne sont pas des personnalités très connues, mais ce sont des personnalités éclairées parmi l'élite intellectuelle du Mali. Ce sont des sociologues, juristes, constitutionnalistes, économistes, écrivains, ingénieurs. Plusieurs sont professeurs d'université au Mali, bien sûr, mais aussi aux États-Unis ou en France. Il y a un chirurgien qui a dirigé l'hôpital du Point G à Bamako. Il y a d'anciens cadres de haut niveau de la BCAO et du PNUD, la Banque Centrale Ouest Africaine et l'Agence Onusienne pour le Développement, par exemple.
Et ont-ils un projet politique ?
Alors, politique au sens de carrière ou de programme politique d'accession au pouvoir, non. Pour la grande majorité, ils ne sont pas membres de parti et ils n'ont pas de carrière politique derrière eux. Il y a quelques exceptions, il faut le signaler. La plus notable, et c'est sans doute d'ailleurs le nom le plus connu parmi ses signataires, c'est Mohamed Alousseini Touré, qui a été ministre du général Moussa Traoré du temps de la dictature militaire. Il a aussi été secrétaire général à la présidence sous Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Et plus récemment, il a travaillé avec les autorités maliennes de transition. Il était rapporteur général des Assises nationales de la refondation en 2021. Et son nom avait d'ailleurs circulé pendant un temps parmi les premiers ministrables de la transition.
Alors ça, c'est intéressant, David Bachet. Les signataires ne sont pas tous que de farouches opposants de la transition, alors ?
Non, puisque certains ont donc pris part aux activités de la transition, aux Assises nationales, comme je viens de le dire, mais aussi à la rédaction de la nouvelle constitution, pour prendre un autre exemple. Donc on n'est pas dans le cliché présenté par certains des apatrides manipulés par l'étranger et qui refuserait l'émancipation du Mali. Il s'agit de personnalités qui croient dans la souveraineté nationale et qui ont cru, au moins pour certains, dans la transition. Et pour revenir à votre question, Chkoulolo, on peut dire que leur démarche est politique, non pas au sens d'un parti qui voudrait accéder au pouvoir, on a vu que c'était pas leur cas, mais il est politique au sens large, au sens noble, au sens de l'implication dans la vie de la cité. Et avec pour objectif, c'est ce qu'ils écrivent, vous l'avez dit, Juan, la préservation de la République et la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux.
Chkoulolo, vous avez une dernière question ?
Oui. Oui, la junte militaire a interdit toute activité politique et dissout l'opposition. Que risquent ces personnes ?
David Bachet.
Alors, théoriquement, rien. Mmh. Parce que, comme je vous le disais, ils n'ont pas mené d'activité politique au nom d'un parti ou d'une organisation politique dissoute. Ils n'ont donc pas bravé le décret présidentiel du 13 mai dernier. C'est une tribune signée par des intellectuels, des citoyens soucieux, ce sont encore leurs mots, de ne pas se rendre coupable d'une indifférence assimilable à de la complicité. Ceci dit, votre question, Chkoulolo, elle est d'une certaine manière un hommage à leur courage, parce que les opinions qu'ils expriment sont sans ambiguïté. Ils constatent que sous la transition, le principe de l'état de droit est régulièrement violé. La loi du plus fort prévaut de plus en plus, écrivent-ils encore, avec des arrestations ciblées et la disparition des voix les plus critiques.
Et ils dénoncent aussi, je cite, l'absence de volonté manifeste des autorités de sortir de ce régime d'exception de gouvernance militaire qui dure depuis 5 ans par l'organisation d'élections libres et crédibles.
Oui, et ils estiment que sans ces élections, eh bien, les Maliens sont privés de leur droit élémentaire de participer à la gestion des affaires publiques et ils réclament un nouveau calendrier électoral. Alors ces déclarations et ces revendications, ce sont des prises de position citoyennes, elles n'émanent d'aucun parti politique et ne servent aucun projet, mais il faut rappeler que de nombreuses personnalités croupissent actuellement en prison pour avoir exprimé leur opinion. Donc, en théorie, légalement, les signataires de cette tribune n'ont rien fait d'illicite, mais on sait la capacité des autorités maliennes de transition à accuser les voix qui ne leur sont pas assez fidèles de tentatives de déstabilisation ou surtout d'atteinte au crédit de l'État. Un chef d'accusation suffisamment vague pour faire condamner les personnalités gênantes. Les exemples ne manquent malheureusement pas. À ce stade, les signataires de la tribune n'ont pas été inquiétés.
Chkoulolo, à Niamey, on a répondu à vos questions, êtes-vous satisfait ?
Oui, satisfait.
Tant mieux, il y a du vent, hein ? Il y a du vent à Niamey, on l'entend, ouais. Ça souffle. David Bachet, à très vite.
Merci, Roy.
Merci à vous, journaliste au service Afrique de RFI. Dans 3-4 minutes maintenant, Jessica Taïeb va nous rejoindre, comme tous les vendredis. C'est le rendez-vous Un œil sur les réseaux. Jessica a passé la semaine à scruter les réseaux sociaux et elle viendra nous parler du sujet qui fait débat, sujet sur lequel vous aurez peut-être envie de réagir juste après dans la libre antenne, surtout si vous êtes au Cameroun. On prend une dernière question, ce sera la dernière de la semaine. Christophe, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à la dynamique équipe d'appel sur l'actualité et bonjour à tous les auditeurs de RFI et bonjour à Vincent.
À Vincent, Vincent qui Vincent ? Ah Vincent, vous faites référence à l'expert qui va vous répondre, Vincent Gesser. Bah, je le salue et je l'introduis. Bonjour Vincent Gesser.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS, à l'Institut de Recherche et d'Études sur les Mondes Arabes et Musulmans. Et Christophe, qui nous appelle du Cameroun, a des questions à vous poser sur ce rapport qui fait polémique en France, un rapport sur les frères musulmans. On vous écoute Christophe.
J'ai suivi sur RFI que la publication d'un rapport sur les frères musulmans en France ne fait pas l'unanimité. Mmh. Sur quel élément s'appuie ce rapport pour dénoncer une influence de plus en plus importante des frères musulmans ?
Oui, rapport qui alerte Vincent Gesser sur l'influence des frères musulmans sur le territoire français, en parlant même d'une menace pour la cohésion nationale. À quoi les rapporteurs font-ils référence exactement ?
Alors, c'est vrai que c'est un rapport qui fait polémique, qui fait controverse. Alors, menace, d'abord, on désigne plus particulièrement une association, hein, c'est l'Association musulmane de France, une fédération qui est ex-Union des organisations islamiques de France. Alors, ce rapport, oui, pointe, c'est un rapport banal, assez lisse, mais c'est les conclusions qui sont durcies, qui parlent de menace. Alors, c'est quand même assez surprenant qu'on parle de menace. Il y a une contradiction un peu dans ce rapport, parce que cette fameuse association qui est pointée, ça fait plus de 30 ans qu'elle entretient des relations avec les pouvoirs publics, ça fait plus de 30 ans qu'elle participe à toutes les consultations sur le culte avec le ministère de l'Intérieur. Même Nicolas Sarkozy considérait que c'était un interlocuteur sérieux. C'est une association qui a des relations, je dirais, fréquentes, directes avec les élus locaux, donc elle est complètement intégrée dans le paysage institutionnel français, mais on la désigne aujourd'hui comme une menace. Donc on peut voir quand même une certaine forme de contradiction. En réalité, je crois qu'il y a un vrai fantasme aujourd'hui sur l'islam organisé, l'islam associatif, l'islam actif, et on le condense effectivement sur cette peur des frères musulmans.
Oui,
c'est une confrérie.
Oui, mais Vincent Gesser, le rapport parle d'entrisme, c'est-à-dire que les frères musulmans s'intègrent dans la société comme si de rien n'était, oui. pour la changer de l'intérieur, en faisant oui. peu à peu infuser leurs idées, non à la mixité, instrumentalisation oui. du port du voile, par exemple, pour ne citer que ces deux exemples.
Il faut savoir que sur ces questions-là, il y a une confusion un peu dans le rapport. C'est juste de pointer ces phénomènes, et c'est de l'ordre, et ça relève, c'est légitime pour l'autorité publique. Mais là, on fait une confusion, parce qu'on fait attribuer à cette association qui a une filiation indirecte avec les frères musulmans, tous ces phénomènes qui touchent effectivement à des formes d'activisme islamique. Mais il faut le dire, cette association est plutôt, elle, toujours dans le compromis sur la question du voile. Elle avait accepté, par exemple, la loi de 2004 sur le fait de ne pas porter de signes religieux à l'école, et notamment le voile. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette association, c'est aussi une donnée quand même importante que soulignait l'expert Karoui, monsieur Karoui, c'était qu'en fait, c'est une association qui est plutôt déclinante. Aujourd'hui, les Frères musulmans de la société française, c'est un mouvement vieillissant. Leurs deux grandes organisations de jeunesse, étudiants musulmans de France et jeunesse musulmans de France, sont pratiquement, je dirais, réduits à zéro. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un fantasme frères musulmans pour désigner des problèmes liés à l'islam de France en la condensant sur cette association.
En tout cas, c'est vrai que c'est peut-être fantasme.
Un caractère un peu complotiste, alors qu'il a été fait par ailleurs par des gens extrêmement sérieux que je connais bien, un ancien ambassadeur, un ancien préfet, oui. que j'estime beaucoup par ailleurs à titre personnel.
Oui, fantasme ou pas, en tout cas, le président Macron a présidé mercredi un conseil de défense et de sécurité nationale pour examiner ce rapport, et un nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale est prévu au début du mois de juin, toujours sur ce même dossier. Vincent Gesser, on aurait pu en parler des heures, c'était passionnant, intéressant. Merci d'avoir pris quelques instants ce matin en direct sur RFI. 8h27, bonjour Jessica Taïeb.
Bonjour Juan.
Je le disais il y a un instant, vous avez passé la semaine à scruter les réseaux sociaux pour nous parler du sujet qui fait le buzz, et cette semaine c'est l'apparition publique du président Paul Biya qui fait énormément réagir. C'était mardi, à l'occasion de la fête nationale du Cameroun. Et comme à chacune de ces sorties médiatiques, eh bien, le chef de l'État est observé de très près par les internautes.
Oui, dans les moindres détails. Des photos et des vidéos vues des milliers de fois sur Facebook et sur X. On y voit Paul Biya présider le traditionnel défilé du 20 mai à Yaoundé. Et tout est analysé et commenté. Son visage, sa manière de marcher ou encore de parler. Alors, il faut quand même préciser que cette année, les internautes n'ont pas eu grand-chose à décortiquer. Les médias accrédités ont reçu pour consigne d'éviter les gros plans sur le président. Les téléphones portables ont été interdits pendant la cérémonie. Mais voilà, ça n'a pas empêché forcément les réseaux sociaux de relancer le débat. À 92 ans, dont 43 années au pouvoir, Paul Biya doit-il être candidat à sa succession?
Et une question récurrente, surtout en année électorale. La présidentielle, je le rappelle, est prévue dans 5 mois. Et forcément, les images du chef de l'État au défilé de la fête nationale ont suscité des milliers de commentaires.
Et oui, je vous en lis quelques-unes. Cet internaute qui était devant sa télévision, visiblement le 20 mai, les journalistes commentent chaque geste du président comme si c'était un exploit. À quel moment un pays doit-il se satisfaire de le voir marcher ou saluer? Celui-ci qui pense aux élections, Paul Biya est président depuis 1982. Certains sur les réseaux sociaux n'étaient même pas nés. Comment peut-il promettre l'émergence aux jeunes Camerounais? Et cette question, Paul Biya ne veut pas être filmé pendant les cérémonies, mais s'il est candidat, comment va-t-il faire campagne en contrôlant toutes les images?
Effectivement, en tout cas, comme souvent, les internautes ne sont pas unanimes. Pour certains, ces images de Paul Biya ont suscité de l'admiration, du respect.
Et oui, il n'y a pas que des critiques sur X. J'ai aussi lu beaucoup de messages de soutien au président camerounais. Je cite, s'il vous plaît, arrêtons cette manie de dénigrer le président. Malgré tout, il est le père de la nation, il reste le chef de l'État. Et celui-ci qui pense à l'avenir, Paul Biya n'a pas encore fini son travail et il est encore bien fort et solide. Il fera son prochain septennat. Je termine avec ce message d'espoir. Le Cameroun est debout. Quand j'ai vu Paul Biya au défilé du 20 mai, j'étais fière d'être Camerounais, n'en déplaise aux mauvaises langues.
Voilà, donc je rappelle quand même pour l'instant que Paul Biya n'a toujours pas fait connaître sa décision. Sera-t-il oui ou non candidat en octobre? Ce qui est sûr, c'est que les statuts de son parti sont clairs. Le président du RDPC est le candidat naturel à la présidentielle. Le débat est donc loin d'être terminé. Peut-être avez-vous envie de réagir justement sur ces images que vous avez vues cette semaine, vous qui êtes au Cameroun. Appelez-nous, exprimez-vous. La Libre Antenne, c'est juste après la dernière édition d'Afrique Matin. À très vite, Jessica Taïeb. On vous retrouve évidemment sur RFI Pure Radio et la chaîne WhatsApp RFI, appel sur l'actualité.